Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le mercredi, je ne sais plus combien, 27 mai,
27
voilà,
mai,
on ne compte plus les jours. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour
vous
madame.
Vous allez bien?
Il oui, fait je vais beau. Bien parce qu'on va recevoir Evelyne Delia, je suis trop content.
Absolument, il fait beau et on va en parler avec Evelyne Delia dans un instant à 10h30. Pardon?
Je vous dis, elle dit quoi? Est culte à la télévision, ah, elle est culte sûr, à la télévision, Evelyne.
À 10h30, je recevrai le docteur Didier Barrault. On parlera avec lui du professeur Raoult et des conséquences en fait de toute cette polémique sur la science, sur la médecine, cette défiance qu'il y a, ces camps qui s'affrontent. Tout à l'heure, André Bercoff recevra le professeur Raoult. Donc, je voulais qu'on donne une autre voix, un autre son de cloche à ce débat, à cette polémique. Je ne sais pas si c'est possible d'en débattre sereinement. En tout cas, on essaiera tout à l'heure à 10h30 et puis vers 11h-10, on sera en ligne avec des policiers pour parler des rodéos dans les banlieues. Vous savez que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a déclaré la guerre aux rodéos. Alors commençons avec ce qui a marché hier soir. Eh bien, je vous le donne en mille, Harry Potter. Harry et Potter oui. Qui est arrivé en tête, 6 219 000 téléspectateurs, 27% de part d'audience. C'était Harry Potter et les reliques de la mort. C'est toujours
plus qu'un
très
épisode.
Très... Ouais, mais c'est toujours évidemment très suivi. Emeric, bonjour.
Bonjour.
Vous avez regardé Harry Potter?
Tout à fait, oui. Mais je suis alors fan. Oui, non, mais j'aime y regarder depuis le. Enfin, j'ai accroché dès le premier. Je trouvais que le premier était très féerique, très beau, très magnifique. Voilà.
Vous les aviez pas vus avant? C'est grâce à TF1 que vous avez pu les voir?
Ah oui, tout à fait. J'avais vu ça il y a très très longtemps avec mes enfants, il y a quand même quelques années déjà en arrière. Et puis après, j'ai continué. Et puis dès que ça repasse, et puis là, hier soir, ben pareil, voilà, je regarde. Or fan, oui, mais non, j'aime bien, j'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup.
Vous aimez bien, d'accord. Bon, bah écoutez.
Ouais, moi, je touche les murs dans les gares maintenant, pour voir si je peux passer dans un autre monde.
Est-ce que j'ai honte de dire que je n'ai jamais regardé Harry Potter?
Ah bah oui, alors vous ne pouvez pas comprendre ma
voilà, manne. Je ne peux pas comprendre. Merci de nous avoir appelé, Emeric. Et puis, bah, il reste encore un film à voir la semaine prochaine sur TF1. Autre auditrice...
Valérie, on passe par un mur pour aller à Poudlard. C'est pour ça. On rentre dans l'univers magique, il va dans une gare et vous poussez un mur et il rentre dans le mur et il passe dans un autre univers.
Oui, voilà merci. Ah. Michel est en ligne, bonjour. Michel, vous nous appelez de Pamiers dans l'Ariège. Il fait beau chez vous?
Oui, très beau. Il va faire très chaud. Oui.
Bon. Alors, et vous avez regardé...
La 2, oui. Terre inconnue, c'était génial. Je les ai presque tous regardés, mais je crois que celui-là était encore le plus beau que les autres. Un paysage, c'était vraiment génial. Des gens, super. L'actrice, alors elle était géniale. Raphaël, n'en parlons pas. Ouais. Oui, c'était Nadia.
Nawal Madani.
Voilà, c'est ça. C'était super. Super, bon. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'était vraiment une leçon de morale de ces enfants, de ces gens qui vivent quand même pas dans le luxe.
Oui,
il y en a beaucoup chez nous qui devraient le regarder. Ouais. C'est vraiment, c'était super.
Et vous pouvez le voir en replay si vous ne l'avez pas vu. Effectivement, rendez-vous en Terre inconnue. Merci Michel de votre appel. 3 088 000 téléspectateurs. France 3 était devant France 2 avec la fin de saison pour Tandem avec Astrid Veillon. Je pense qu'il devrait y avoir une suite. Ça a plutôt très bien fonctionné. Et puis M6 également qui a fait plutôt un bon... Non, c'est pas vraiment un bon score. 5,8% de part d'audience pour les femmes du 6e étage. C'est pas terrible du tout. On va passer au zapping.
On se rattrape ce soir avec Top Chef.
Oui, bien sûr. Zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Eh bien, il était notre invité hier, David Pujadas. Vous avez vu, on a eu du nez, hein, Valérie, puisque évidemment, son interview a fait du bruit. Il faisait face sur LCI au professeur Raoult. Et puis, ça a fait entre eux des étincelles au point de comparer sa notoriété avec celle d'Olivier Véran.
Détrompez-vous, les gens, ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez.
Ils sont divisés.
Non. Détrompez-vous. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi?
Non, mais moi, je suis pas de la partie.
Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité?
À Marseille, je suis certain que vous avez un taux record.
En France, faites-les les sondages.
En France, les gens se posent la question.
Faites les sondages. Regardez-moi, je les ai vus, les sondages d'Odexa. Je les ai vus.
Vous avez vu qu'il a quand même le sondage d'Odexa qui parle de lui.
C'est ouais. À noter. Et ça, c'était une réponse à une question à laquelle il n'a pas répondu. Donc, je pense qu'André Berkoff lui reposera la question sur justement ses études. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir fait d'études comparatives. Mais il n'a pas répondu à la question. Il a répondu par cette pirouette en disant moi, on me croit. Voilà.
Toujours dans la même interview, le professeur est revenu sur sa notoriété. Et pour lui, pas question de mélanger les polémiques et la célébrité.
Vous confondez deux choses, parce que, encore une fois, vous êtes dans votre métier. Vous confondez le désir de polémique ou l'acceptation de la polémique et la recherche de la notoriété. Je ne cherche absolument pas la notoriété. Alors, je vous assure, j'en suis même... C'est pesant.
Ah là là, c'est pas lourd parce que c'est réussi, pas notoriété.
Oui, ah bon. J'ai revu les images ce matin du professeur Raoult à Marseille. Et ce que nous disait Eric Revel hier, il y a des calicots entiers avec son nom. Quand il est acclamé par les chauffeurs de taxi, ça n'a pas l'air de lui peser beaucoup, effectivement.
On connaissait le PSG contre l'OM. Voici donc le professeur Raoult contre Paris. Et une nouvelle fois, au cours de cette interview sur LCI, il s'est attaqué à l'élite parisienne.
Alors, je vais vous faire un aveu terrible, je ne pourfends pas du tout les élites. C'est que nous n'appelons pas les élites la même chose. Enfin, vous n'êtes pas sérieux.
Parisienne, vous le pourfendez.
Non, ce que je pense, c'est que Paris a une espèce de... Le Paris actuel, hein, qui n'est pas le Paris ancien, où il y a une très grande gloire, y compris dans la famille. Le Paris actuel ressemble au Versailles du XVIIIe siècle. Ce que vous vivez, ça ressemble beaucoup à Saint-Simon. Si vous lisez Saint-Simon, vous verrez, ça ressemble beaucoup. Ces espèces de chuchotements, de babillages.
Alors, une interview qui a fait réagir, évidemment, comme le professeur Éric Combe, qui est le chef des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Il était en plateau sur LCI après la diffusion de cette interview. Il en a profité pour expliquer un théorème, celui de Brandolini.
La loi de Brandolini, c'est la loi d'asymétrie du baratin. Et en fait, elle s'énonce comme ça, je lis, hein, « La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer. » Donc vous imaginerez le temps que ça me prendrait pour dire que c'est ce qui a été publié dans le Lancet, le New England, le British, des revues dans lesquelles M. Raoult d'ailleurs publie beaucoup, et il en est très fier aussi. Ça me prendrait trop de temps, donc je ne vais pas revenir là-dessus.
Alors écoutez bien ce son incroyable, Valérie, c'est dans Quotidien. Alors que l'adjoint au maire de Strasbourg donne une interview devant le stade où a eu lieu, vous savez, un match illégal, je vous avais passé le son lundi, ouais. Un jeune a commencé à les caillasser avant d'intervenir et de les interpeller.
T'as un problème ? C'est quoi le problème ?
On s'en bat les couilles, ce qui s'est passé. C'est passé, il y a eu juste un match de foot entre deux cités, c'est tout.
Mais alors, mais t'es
c'est tout,
pas.
C'est tout, il n'y a rien eu de...
J'étais dimanche. Bon. Ouais, moi j'étais dimanche.
Moi j'étais dimanche, et c'est quoi ? C'est ça fait plaisir, parce que pour une fois il y a des jeunes, on est là, on se retrouve. Vous êtes le maire, non ? Où vous êtes
moi,
là ?
Je suis l'adjoint.
Voilà, l'adjoint au maire. Vous faites quoi de vous pour le quartier ? Vous avez fermé tous les trucs qu'il y a ici, wesh.
J'aimerais que...
Mais oui, il faut que les stades rouvrent, faut que tout ils rouvrent. Tout ils rouvrent, pour que les jeunes ils peuvent sortir un peu. Enfin, on est là en train de faner dans un quartier. Il y a personne qui fait rien pour nous ici.
Et puis vous avez vu qu'il y a eu un second match à Grigny, et je pense que de plus en plus il va y avoir des matchs en banlieue.
Absolument,
qui vont, hein. Et que ça va un peu accélérer. On va voir ce qui se passe autour de ça. Et pour la première fois aussi, un maire transgenre a été élu en France. Elle s'appelle Marico. Elle est devenue la maire de Tilloy-les-Marchiennes. C'est dans le nord de la France. Elle a donné sa première interview à BFM hier, et c'était à sa grande surprise.
J'ai toujours essayé d'avoir une vie assez normale, dans un village normal, avec des gens normaux. Donc voilà. Pour nous, c'est un non-événement à Tilloy. C'est incroyable parce que je reçois des félicitations de toute la planète. Ça nous surprend parce qu'effectivement, un village rural un peu traditionnel avec une forte dimension agricole, on semble être propulsé au devant de la scène comme étant un fait sociétal alors que chez nous, il n'y a pas d'événement. Quoi.
Et puis pour finir, Daniel Lévy, à son tour, il va de sa chanson de soutien aux infirmières avec les participations d'un tas de vedettes comme Thierry Beccaro, Samuel Le Bihan, Ed Romanoff ou Jean-Luc Reichmann. Alors ça s'appelle, tenez-vous bien.
Et moi.
Vous êtes dedans, Valérie ?
Oui, je suis dedans.
Mais non,
il m'a demandé très gentiment. Ben non, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, j'ai accepté de participer. Je fais un petit cœur en soutien aux soignants. Voilà, je suis une star.
Et donc, Valérie, vous connaissez le titre de la chanson ?
Absolument.
Alors, je vous écoute.
Allez-y, bah, allez-y, je ne veux pas chanter.
Non, vous ne connaissez pas le titre. Jamel va vous le dire.
Si, si, je l'ai vu, c'est très beau en plus.
C'est toi, moi, nous, eux, lui, vous. Toi, moi, nous, eux, lui, vous.
Jamais une absence, toujours en urgence, et la danse est mal. Toi, moi, nous, eux, lui, vous, il reste ici. Il reste ici.
Ben, je vous écoute
beaucoup
chanter, Valérie.
Beaucoup de talent, beaucoup de talent. Non, non, je me dis avant, je ne chanterai pas. Donc, non, il y a beaucoup de monde sur ce clip. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont répondu oui, donc je suis en tout petit, en toute petite vignette, mais j'aime beaucoup Daniel Lévy, donc j'ai accepté, voilà. Mais c'est une très jolie chanson, effectivement, tous les bénéfices iront aux soignants de Marseille, donc important, bien évidemment. Bonjour Evelyne Delia.
Bonjour Valérie.
Comment allez-vous?
Très bien.
Bon, il fait
et
beau.
Eh ben
très bien.
Bien.
Ça va bien aussi. Vous avez été le rayon de soleil avec évidemment Louis Baudin et vos camarades et Tatiana Silva évidemment pendant cette période de confinement. Comment vous l'avez vécu, vous? Évidemment, je pose la question à tous mes invités. Vous êtes allé à TF1 travailler pendant le confinement. On vous a vu.
Exactement. Ce qui fait que c'était un confinement très particulier, bien évidemment, puisque je partais le matin et je rentrais le soir, comme d'habitude. La différence, c'est que comme il n'y avait pas le 20h le mag, au lieu de rentrer à 21h, eh bien, je rentrais plus tôt et que je pouvais, sur mon balcon, tous les soirs, applaudir avec tous les gens de ma rue, le milieu hospitalier. Et ça, c'était un geste extrêmement important. Anonyme, bien sûr, et important. Et sinon, si vous voulez, c'était très impressionnant de traverser, parce que j'avais bien évidemment une autorisation de pouvoir partir à TF1, de traverser Paris. Parfois, j'étais seule sur les quais, en voiture. C'était un monde presque irréel. Alors que pour moi, j'étais un peu dans la réalité, puisque je partais travailler tous les jours. Et puis sinon, j'ai vraiment respecté le confinement le week-end. Ça, c'était très important. Et en fait, je continue à être très vigilante aussi. Et puis à TF1, on était hyper protégés. On vous prend la température tous les matins en arrivant. Vous avez deux masques pour la journée, du gel hydroalcoolique partout. On est très vigilants et nous sommes très peu nombreux, hein, même après le déconfinement.
Oui, c'est ça. Même après le déconfinement, TF1 reste, comme Sud Radio d'ailleurs, et comme pas mal d'entreprises, extrêmement vigilants
et
prend beaucoup de précautions.
Ça devait faire bizarre de faire une météo où vous annonciez du beau temps et les gens ne pouvaient pas en profiter. Ça devait être rageant quand même.
Oui, alors c'est ça. Et souvent, les gens me disaient « Oh, écoutez, c'est rageant, il fait beau et on ne peut pas en profiter. » Et je disais « Non, au contraire, il fait beau. » Vous vous rendez compte, si on était dans un temps gris, pluvieux, pour le moral qui était déjà... C'était déjà compliqué. Et moi, je trouve qu'au contraire, on a eu la chance d'avoir ce soleil qui finalement a permis quand même de passer ces jours un peu moins dans la morosité.
Oui, vous pensez que malgré que c'était pas frustrant, qu'au contraire s'il avait fait moins beau, les gens auraient été moins frustrés d'être confinés à l'intérieur, enfin d'être confinés.
Ben, écoutez, je pense que ça nous serait arrivé l'hiver et espérons que ça ne nous arrivera pas l'hiver. La nuit, il fait nuit à 5h de l'après-midi. Il fait froid. D'abord, on aurait consommé beaucoup plus d'électricité dans les foyers. C'était déjà compliqué. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge. Je me dis, tu peux pas savoir le confinement avec trois gamins à la maison, le télétravail et tout. Et en plus, si vous êtes dans un côté sombre, humide, pluvieux, déjà, on dit que c'est vraiment pour le caractère important et pour le moral.
Donc, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, Evelyne, parce que ça grésille, la liaison, la liaison n'est pas parfaite. Donc, qu'on vous entende sur les aléas des liaisons à distance.
Je suis près d'une fenêtre, est-ce que c'est mieux?
Voilà, écoutez, ça va aller. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous ne travaillez pas? Vous avez fait quoi de vos journées?
Eh ben, j'ai fait comme beaucoup je change d'endroit, peut-être que ça sera, parce que ça résonnait, peut-être que c'est mieux là. Écoutez, j'essaie, je crois, comme beaucoup de gens, quand on n'a pas le temps de le faire habituellement, c'est de ranger les placards et puis de prendre un peu de temps aussi pour soi. Voilà, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de voir les autres. Et une chose que j'ai faite, et ça a été un peu une découverte, j'ai beaucoup d'amis qui habitent en province, et c'était le WhatsApp. Alors que habituellement, on se voit parfois pas plus, mais ouais. C'était de se faire bon, les petits bonjours, les WhatsApp, les apéritifs, et puis, moi je suis à Paris en appartement, mais les amis qui me disaient, tiens, regarde, je te fais visiter mon jardin, regarde ce que j'ai planté, etc. Parce que je pense que les jardins n'ont jamais été aussi beaux que cette année à travers la France. Et ça a été une autre façon. Et maintenant, on continue à le faire, alors qu'avant, on téléphonait sans se voir. Et maintenant, je pense qu'on a pris l'habitude, quand on est à des distances importantes, de se voir et d'échanger de façon différente.
Est-ce que Jean-Pierre Pernaut vous manque ?
il manque à tout le monde, mais on l'a quand même tous les jours. Donc
oui, l'avez tous les jours, mais pas physiquement. Voilà, vous ne le croisez plus les couloirs.
On ne le croise plus, mais je pense qu'il est très vigilant. Il a raison.
Oui, absolument.
C'est un choix qu'il a fait avec la direction et je pense qu'il a raison. Et puis le tandem Jacques Jean-Pierre, ça marche bien. Hein.
C'est sympathique.
Alors, est-ce que c'est vrai que vous êtes le plus, on va dire ça, le plus vieux ou le plus ancien?
La plus ancienne,
le plus ancien CDI, le plus ancien CDI de TF1.
Écoutez, je pense que oui. Et j'en suis très fière d'ailleurs.
Vous êtes rentrée en quelle année à TF1?
Écoutez, j'ai commencé en tant que pigiste fin 68, début 69. Donc vous calculez, c'est plus d'un demi-siècle.
C'est incroyable.
Et vous avez toujours autant de plaisir à présenter la météo. Vous n'allez pas me répondre non, évidemment, mais enfin, évidemment que vous y trouvez immense plaisir.
Mais c'est évident parce que. J'ai la responsabilité en plus du service. Et puis, les bulletins météo, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, mais il y a toute la préparation, il y a toute l'évolution des bulletins aussi. Moi, je suis en permanence en contact avec Météo France.
Parce que vous écrivez vos bulletins.
Moi, je fais la météo depuis 92. Qu'est-ce que ça bougeait? Qu'est-ce que ça évoluait? Mais aussi bien pour les prévisions que pour la façon de présenter les cartes, et puis maintenant on travaille sur du virtuel, on a des tas de projets. Là, je travaille en ce moment sur des projets pour d'explication de la météo avec des instruments là qu'on vient d'obtenir à météo à TF1 et qui sont extraordinaires. Et ça, c'est fabuleux. Et puis il y a aussi les problèmes de réchauffement climatique. Hein. Moi, je suis
Vous êtes extrêmement engagé sur le sujet. On annonce un été très chaud. Est-ce qu'on peut en être certain, quoi qu'on ne soit jamais certain de grand chose à terme, enfin sur des longues durées, mais c'est ce qu'on nous annonce.
Alors, effectivement, d'ailleurs, j'ai fait un plateau dans le journal la semaine dernière de Gilles, jeudi dernier, là-dessus, parce que on observe quand même des choses qui sont complètement inédites. Par exemple, là, avec ce mois de mai qui se termine dans la chaleur, avec des températures parfois excédentaires de 10 degrés, on a 12 mois consécutifs de température au-dessus de la normale. Ça, c'est du jamais vu. Pour les prévisions, ce qu'on appelle les prévisions saisonnières, on marche à petits pas, on fait très attention, bien évidemment. Donc Météo France ne parle pas, impossible de vous dire 14 juillet, il fera chaud, ou on aura des orages, ou le 15 août. En revanche, ils parlent de signaux, et ils ont un signal concernant les températures en disant qu'elles devraient normalement être au-dessus des normales. Donc c'est pas forcément de la canicule, on ne sait pas, parce qu'une canicule sont des températures excessives, 3 jours d'affilée, aussi bien la nuit que le jour. Tout ça, c'est... on est parti a priori pour un été chaud et aussi pour une sécheresse plus importante que d'habitude dans la moitié nord du pays. Alors que l'on souffre déjà de sécheresse pour les sols du moins. Pas les nappes phréatiques, mais les sols.
Donc, alors Valérie...
On peut dire que quand même... Attendez,
a priori, la tendance, la tendance est là.
Alors Valérie, évidemment, une grande partie de la carrière d'Evelyne Delia, c'est quand elle était speakerine. Vous vous souvenez des speakerines quand même, Valérie, de cette époque. Et alors moi, j'ai retrouvé une archive de vous, Evelyne, en 1976. C'est une annonce de speakerine, mais vous la faites en anglais. Écoutez.
We are going to show you now a short extract of a dramatic made in 35 by Marcel Craven and entitled Lily in the Valley.
Bravo, quel accent, vous en avez vu, c'était quoi?
Alors vous savez que c'est ainsi, alors ça date de 76, alors peut-être c'était des échanges de programmes avec des autres télévisions, mais c'est comme ça que j'ai un peu eu la chance de rentrer à la télévision, je l'ai dit à TF1, mais c'était l'ORTF à l'époque, parce que j'étais à la fac, je démarrais une licence d'anglais, et j'avais répondu à une petite annonce de l'ORTF qui cherchait quelqu'un pour présenter des programmes en français et en anglais. Il y avait un congrès de télévision européenne qui faisait des échanges de programmes, mais ça se passait pas du tout dans les studios, et j'ai fait ça pendant 15 jours, avec des pannes, etc. J'avais jamais fait ça de ma vie, et puis c'est comme ça qu'un jour on m'a appelé en me disant, écoutez, on a besoin de quelqu'un pour les télévisions scolaires, ce qui était une très bonne école parce qu'on faisait tout en direct le matin, et c'est comme ça que j'ai commencé à l'antenne, à la télévision, quelques mois après, en faisant de la pige. Et puis petit à petit, puis après c'est Pierre Sabat qui m'a donné mon premier contrat en 71. Et voilà, et l'aventure a continué avec des émissions, avec
la maison de TF1. Moi j'étais fan de la maison de TF1.
Moi aussi, oui, je me souviens.
Avec Nicolas Le Jardinier.
Oui,
fantastique.
C'était une époque fantastique. Et moi, je dis, c'était un peu de la télé-réalité avant l'heure. C'est-à-dire qu'on faisait de l'information, mais on était dans une vraie maison, un pavillon qui était à Gentilly, en banlieue. Il y avait Cécile Ban qui était la babille. Moi, j'étais le couple avec Jean Lanzy. On avait le copain jardinier, le copain bricoleur, le copain, et puis il y avait Jean-Pierre Pernaut qui était dans la bande. Qui était copain, qui lui s'occupait de tout quand vous vouliez voyager. Ah ben, vous voulez voyager, vous avez la possibilité. Il avait cette rubrique-là. Et moi, j'ai des cassettes qui datent de cette époque, c'est extraordinaire.
Vous avez écrit un livre ou pas, Evelyne? Vous avez raconté votre histoire?
J'ai écrit un livre sur le réchauffement climatique, avec les... scientifiques, voilà, mais qui étaient...
Mais pas sur votre histoire, il faudrait que vous écriviez vos mémoires, Evelyne.
En revanche, j'avais sorti, quand on faisait justement la maison de TF1, il y avait une rubrique gymnastique avec Marie-Christine Debeauce, et puis il y avait un éditeur qui m'avait demandé de sortir un bouquin, que j'ai sorti d'ailleurs, sur la gymnastique, et notamment la gymnastique du visage. Faire bouger les zygomatiques, etc.
Ça a bien marché, en tout cas, parce que vous ne changez pas, chère Evelyne. Merci d'avoir été avec nous, Evelyne Delia. On vous retrouve aujourd'hui ou pas sur TF1?
Non, parce que là, je suis, figurez-vous, en congé. Et comme on ne peut pas parler, ce sont des congés que j'avais posés il y a plus de 2 mois, bien avant le confinement, il y a 3 mois ou 4. Et puis, comme on ne peut pas aller au-delà de 100 km, ben voilà, je continue mon rangement tranquillement chez moi.
Bon rangement, Evelyne Delia. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et bonnes vacances. Toujours un plaisir de vous entendre, de vous voir. Merci à vous. Rendez-vous sur TF1. Gilles, on se retrouve demain. Et nous, on se retrouve dans un instant avec le docteur Damien Barrault pour parler d'Éric Raoult. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Et je suis en ligne avec le docteur Damien Barrault. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes médecin réanimateur en unité Covid. Enfin, vous avez suivi les patients Covid au CHR de Metz-Thionville. J'avais envie de vous avoir ce matin parce que je vous suis régulièrement sur Twitter. J'avais lu au mois d'avril une interview que vous aviez donnée en expliquant que ce que faisait le docteur Raoult, c'était de la médecine spectacle et non pas de la science. C'est vrai que le plan média du docteur Raoult s'est déroulé toute la semaine. Il a commencé commencé par YouTube. Maintenant, il était hier donc dans une grande interview avec David Pujadas. Tout à l'heure, il sera avec notre ami André Bercoff. Et je voulais avoir un autre éclairage, un autre son de cloche que celui donné par le professeur Raoult. Et puis surtout parler, parce qu'on ne va pas rentrer dans un débat ce matin. Pardon d'être un petit peu longue, mais ce matin, je regardais une chaîne de télévision qui demandait à un intervenant, vous êtes pour ou contre Raoult, ce qui n'est pas le propos aujourd'hui. Mais la première question, Damien Barrault, docteur Barrault, c'est est-ce que vous avez des conflits d'intérêts, puisque c'est la question qui revient et la polémique qui revient quand on fait parler à un médecin aujourd'hui à la télévision ou à la radio.
Alors, j'ai strictement aucun conflit d'intérêts. Je les annonce moi-même spontanément à chaque fois. J'en ai aucun. Ils sont consultables sur Transparence Santé. Je ne reçois plus les laboratoires de toute façon. Et j'ai aucun conflit. Alors, ce qui est important aussi, c'est pas que les conflits d'intérêts financiers. Ça, je sais bien que ça agite, ça agite le complotisme et tout ça, mais il n'y a pas que les conflits d'intérêts financiers. Il y a des conflits d'intérêts non financiers, on va dire, de tout ce qui fait monter les carrières universitaires. J'en ai pas non plus. Moi, je suis praticien hospitalier dans un petit hôpital de province. Je suis pas sur les mêmes thématiques de recherche que le docteur Raoult. Je marche pas sur ses plates-bandes. Je ne suis pas en concurrence avec lui.
Oui. Justement, à quel titre est-ce que vous pouvez vous exprimer aujourd'hui, puisqu'on va vous dire que lui est un professeur reconnu, un virologue. Qu'est-ce qui fait que vous, médecin, réanimateur, vous exprimez et vous insurgez contre la méthode utilisée par le professeur Raoult ?
Ben, ça me dérange pas qu'éventuellement on me renvoie mon statut de ne pas être professeur ni virologue, puisque en termes de preuves en médecine, l'avis d'expert est ce qu'il y a de plus faible au niveau de preuves. Ce qui est important, c'est les données. Donc, vous pouvez être l'expert de tout ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas les données probantes, vous ne pouvez rien donner d'autre qu'un avis comme un autre. Ouais. Et il se trouve que si je ne suis ni expert, ni virologue, ni infectiologue, je sais lire une étude et reconnaître une étude qui tient la route ou qui ne la tient pas.
Et alors, en quoi est-ce que l'étude du professeur Raoult ne tient pas la route selon vous ? Et vous avez vu peut-être cette interview hier sur LCI, David Pujadas, quand David Pujadas lui pose la question sur cette étude. Alors, j'ai pas prévenu le réalisateur, mais le professeur Raoult répond sur sa notoriété et sur sa crédibilité. Écoutez.
Détrompez-vous, les gens, ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez.
Ils sont divisés.
Non. Détrompez-vous. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi ?
Non, mais moi, je suis pas de la partie.
Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit ? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité ?
À Marseille, je suis certain que vous avez un taux record.
En France, faites-les, les sondages.
En France, les gens se posent la question.
Faites les sondages. Regardez-moi, je les ai, les sondages d'Odexa. Je les ai vus.
Voilà. Donc, qui est crédible aujourd'hui ? Est-ce que ça, c'est de la science ? Et c'est cette question-là que je voulais aborder avec vous. C'est qu'aujourd'hui, on en est à pour ou contre Raoult, sur de la notoriété, mais et de la défiance vis-à-vis des médecins aujourd'hui.
Bah, je pense que l'extrait que vous avez passé parle de lui-même. C'est-à-dire que quand on demande des données ou des réponses précises, ça se transforme. Mais vous auriez pu passer un autre extrait où il répond à M. Pujadas, qui était plutôt bon hier, je trouve. En tout cas, meilleur qu'Apolline de Malherbe il y a quelque temps. La réponse du professeur Raoult a été de dire « Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis ». Enfin, c'est hallucinant de répondre ça. Donc voilà, on est dans du populisme médical, oui. Il le dit lui-même, il parle de sondage. Le Parisien a fait un sondage pour savoir s'il fallait mettre ou pas de la chloroquine. Enfin, bon, c'est pas de la science. Il dit, vous voulez voir qui les gens croient entre moi et Véran. Enfin, voilà, on est dans la croyance, en fait. C'est de la croyance, c'est du mécanisme sectaire.
De la croyance, en même temps, lui dit qu'il voit les malades, qu'il a traité 4000 patients, qu'il y a moins de morts à Marseille. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ?
Il y a moins de morts à Marseille parce qu'il y a eu moins de patients, oui, c'est normal. Et puis quand on traite des malades asymptomatiques, à moins de se débrouiller vraiment comme un pied, normalement, quand les malades sont asymptomatiques, ça se passe mieux que quand ils sont très graves, oui. Oui, c'est sûr qu'il y a 5 fois plus de morts à Paris qu'à Marseille, puisqu'il y a eu 5 fois plus de patients hospitalisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IHU, c'est un gros paquebot. Hein. C'est un magnifique outil avec des services d'infectiologie dedans, mais il n'y a pas de réanimation. Hein. Donc, quand les malades sont graves, ils sont transférés. Donc, ils ne meurent pas à l'IHU. Donc, il n'y a pas de mort à l'IHU, très peu.
Hein. Lui, il parlait de Marseille, non? Oui, il parlait que de l'IHU.
Sur le site internet de l'IHU, il y a les chiffres de l'IHU. Mmh. Oui. C'est sûr que quand il n'y a pas de réanimation, ben vous n'avez pas de malade grave, donc il n'y a pas de mort, hein, c'est normal. Et puis quand en plus vous testez tout le monde, tous les gens qui se présentent devant vous, dont des asymptomatiques, eh ben vous faites augmenter le dénominateur pour expliquer que la létalité est basse. Oui, c'est des vrais chiffres, mais c'est des petits tours de passe-passe pour.
C'est de nombreux médecins disent que la faiblesse des preuves scientifiques qui ont été fournies aurait dû clore le débat immédiatement. Or, on voit aujourd'hui cet emballement politico-médiatico-scientifico, je ne sais quoi encore. Comment est-ce que vous expliquez que qu'aujourd'hui on en soit arrivé là? Et qui est finalement assez peu. Alors, on a appris ce matin que le décret autorisant l'usage de l'hydrochloroquine avait été abrogé, mais tout de même, il y a un certain nombre de choses qui auraient dû peut-être alerter les autorités scientifiques.
Bah, oui, bien sûr que ce décret aurait jamais dû être pris. D'abord, ça aurait évité de le retirer comme une défaite en race campagne. Tout le monde a perdu la tête hein, dans cette crise, mais finalement la littérature mondiale est de mauvaise qualité. Et il se trouve que la crise du Covid a exacerbé tout ça. Mais c'est notre pain quotidien finalement. C'est juste que ça a été multiplié par un million parce que tout le monde voulait se poser en sauveur, trouver le médicament, trouver la technique, trouver tout ce qu'il faut. Mais tout ça est du grand n'importe quoi.
Mais pourquoi du grand justement. Alors hier, c'est Libération qui publiait un article pour expliquer que fin mars, le professeur Raoult a rendu public une étude sur ce traitement qui combine l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui est présentée comme une simple analyse de données de soins, et pourtant elle semble relever d'une recherche impliquant la personne humaine, et ça nécessite l'autorisation d'un comité éthique indépendant. Or, il n'a pas eu cette autorisation. La méthodologie employée par le professeur Raoult, qu'est-ce qu'un médecin peut en dire?
Effectivement, les arguments développés par Florian Gouttière dans Libération sont ma foi absolument valides. C'est-à-dire que il essaye un médicament qui n'est pas qui n'a pas l'AMM pour ça. Donc, on entend souvent le terme d'AMM.
L'autorisation de mise sur le marché, oui, c'est ça.
Sur le marché, vous pouvez avoir l'AMM dans le lupus ou la polyarthrite pour le plaquenil ou à l'époque pour la prévention du paludisme. Si vous voulez introduire une nouvelle indication pour un médicament, il faut reprendre depuis le début et faire les choses dans l'ordre. Et donc dans ce cadre-là, il aurait fallu avoir des autorisations de comités d'éthique indépendants, c'est-à-dire pas ceux de l'IHU, et puis des autorisations de l'ANSM, chose qui n'a pas été faite. Donc là, on est hors des clous légaux, c'est du pénal là en fait.
Mais alors pourquoi il n'y a pas de réaction? C'est un peu la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réaction?
Ben ça, il faut demander à l'ANSM, il faut demander au ministre. En ce qui me concerne, et comme beaucoup sur Twitter, on a réagi, hein, mais c'est pas nous qui faisons les lois. Donc, les décideurs ne réagissent pas. Voilà. Ouais. C'est à eux qu'il faut poser la question.
Ouais. Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui de s'opposer au professeur Raoult? On voit, il y a un site Medicus qui ce matin a annoncé qu'il allait, un compte Twitter, qu'il allait fermer son compte suite aux menaces de mort, aux insultes qui sont reçues suite à des gens qui avancent des arguments qui ne plaisent pas au professeur Raoult. Vous-même, vous avez été menacé de plainte. Vous avez été menacé de plainte par l'institut du professeur Raoult, mais ils ont dit qu'ils avaient autre chose à faire, qu'ils soignaient les malades.
Oui, on a tous autre chose à faire. Je suis allé lundi au commissariat finaliser une pré-plainte que j'avais faite en ligne pour des menaces de mort. Oui. Oui, je l'ai fait aussi. Bon, voilà, c'est pas très grave.
Ouais. Quelles conséquences ça va avoir sur le plan éthique? Parce qu'on voit une défiance vis-à-vis des médecins, et je le vois chez nos auditeurs. Hein. Je vois les réactions sur Facebook qui nous insultent, qui vous insultent parce qu'on vous dit, bah non, ça marche. Regardez, Estrosi, il a été soigné. On arrive dans quelque chose de totalement irrationnel et de peu scientifique.
Il n'y a rien de scientifique là-dedans et pour rien vous cacher, les médias nous ont quand même pas aidé dans cette affaire quand même pour connaître. Hein, quand on voit les experts qui sont invités sur les plateaux, c'est à pleurer. Quand on voit M. Douste-Blazy qui vient en 24 heures ou 48 heures faire deux gros mensonges à propos de l'étude du Lancet et que personne n'est là pour lui dire stop, c'est catastrophique, oui. Quand on voit Monsieur Jardet, je ne sais pas si vous connaissez le.
Oui, bien sûr.
Monsieur Jardet, c'est lui qui fait la loi sur la protection des personnes soumises à la recherche médicale, et c'est lui qui encourage à aller signer une pétition pour presser la chloroquine. C'est un peu comme si Jean Leonetti disait allez-y injecter du potassium pour une fin de vie. On est dans la plus pure science-fiction. Là, j'ai vu une vidéo de Nicolas Dupont-Aignan ce matin, mais en même temps, on leur laisse la parole à ces gens-là. Alors comment voulez-vous que ça se passe autrement?
Oui, mais qui peut? Oui, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas. Je crois que c'est Raphaël Antoven qui disait essayer de convaincre les pro-Raoult, c'est comme essayer de convaincre un platiste que la Terre n'est pas plate. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui. Mais là, vous évoquez la loi Jardet, donc c'est du pénal. Si on lit l'article de Libération, ce qu'a fait le professeur Raoult, c'est du pénal.
Oui, mais le promoteur de cette loi. Plonge dans l'hystérie de la chloroquine et du coronavirus. Alors qu'est-ce que vous voulez faire?
Mais quand le professeur Raoult dit moi je vois des médecins, tous ceux qui parlent qui sont contre moi ne voient pas de médecins, ils ont fait des études de médecine mais ils ne sont pas médecins, c'est ce qu'il a dit.
C'est très insultant pour nous, ça relève du code de santé publique, hein, le code de santé publique et du code de déontologie. Il y a beaucoup d'articles des articles disant qu'il n'a pas le droit de tenir ce genre de propos en direct, ni de tenir des propos, de faire des annonces sur des médicaments non éprouvés. Donc tout ça aussi, alors c'est pas du pénal, c'est le code de santé publique, voilà. Donc ouais, ça, c'est au conseil de l'ordre de prendre les devants pour arrêter ça.
Oui, mais enfin, vous imaginez aujourd'hui le conseil de l'ordre s'opposer au professeur Raoult?
Il y a peut-être un moment où il faudra faire un exemple pour que tout ça s'arrête, en fait. Le Conseil de l'Ordre a beaucoup à se faire pardonner sur plein de choses. Je pense que ça serait une excellente occasion.
Oui, les conséquences sur la science, encore une fois, sur l'éthique, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Vous aviez dit que, en fait, ce qui s'est passé là, ça a considérablement ralenti la recherche.
Oui, ça a ralenti. Alors dans quelle mesure ça a fait capoter Discovery, je saurais pas vous donner des pourcentages, mais il est clair que tous les gens qui ont été centres investigateurs de Discovery ont vu des patients et des familles refuser d'intégrer le protocole parce qu'ils voulaient absolument recevoir de la chloroquine. Donc oui, ça a ralenti la recherche, oui.
Oui. On a une auditrice qui dit le médecin est là pour soigner. Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait pour soigner? Je pense que vous étiez au cœur du soin, non? Quand on est réanimateur, c'est un petit peu le cœur du boulot, non?
C'est le cœur du boulot. Ça fait aussi partie d'une rhétorique de l'IHU qui m'agace au plus haut point. C'est-à-dire qu'ils ont le mot soigner à la bouche, mais soigner, c'est bien autre chose que de donner un cachet, surtout si c'est un cachet qui marche pas, en fait. Hein. Soigner, c'est prendre en charge globalement un malade, faire des bons soins de base, et le plus souvent pour un virus, ça suffit, en fait.
Oui, alors je reçois évidemment aussi des interpellations, hein, en me disant, et moi, qui s'adresse à moi, qu'est-ce que vous avez fait pour trouver un médicament? Lui, il a trouvé quelque chose, donc...
Il n'a rien trouvé, il a fait croire qu'il a trouvé, mais il n'a rien trouvé. D'abord, la chloroquine, il nous la ressort depuis à peu près 20 ans pour toutes les maladies infectieuses qu'il découvre, pour la fièvre Q, pour toutes ces choses-là. Il n'a rien trouvé, en fait. Il a, dans sa pharmacopée, quelques médicaments dans l'hydroxychloroquine, et il la ressort à chaque fois. Moi, je suis pas en train d'essayer de chercher des médicaments. Je me préoccupe de faire des bons soins au quotidien aux malades et sans faire des vidéos YouTube.
Bon, quelques réflexions. Ce médecin est payé par qui? Par Gilead? Non, il a dit qu'il n'avait aucun conflit d'intérêt.
C'est sur transparencesanté.gouv. Mon dernier congrès payé par l'industrie, c'est Pfizer en mars 2017. Et depuis, j'ai pas mangé un seul croissant de l'industrie et je ne reçois plus délégués médicaux.
Brigitte, une auditrice, nous dit pourquoi ce médecin... Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. C'était Véronique qui disait qu'il faudrait un débat entre deux médecins, entre des médecins, face au professeur Raoult, parce que c'est vrai que les journalistes n'ont pas forcément les connaissances pour lui répondre. Donc c'est peut-être ce qu'il faudrait, qu'il y ait un débat très clair entre médecins. Je ne sais pas s'il l'accepterait, professeur Raoult. On peut lui poser la question, peut-être André Bercoff lui posera la question.
S'il faut y aller, je suis prêt, mais comme je suis qu'un petit praticien hospitalier et que je ne suis pas expert, je ne suis pas certain qu'il veuille s'abaisser à ça.
Eh bien écoutez, peut-être André Bercoff lui posera la question. Merci en tout cas, docteur Barraud, d'avoir répondu à nos questions. C'est une, je me fais évidemment allumer sur Facebook, c'était prévisible. Je pense qu'on peut avoir des paroles qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'on entend. Le professeur Raoult a rarement de contradicteurs. Quelquefois sur les plateaux, mais assez rarement. Donc je pense qu'on peut donner la parole à tout le monde sur Sud Radio. Et vous faites votre idée. Merci à vous, docteur. On se retrouve dans un instant pour parler de toute autre chose. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, il nous reste hélas peu de temps. J'ai pris beaucoup de temps avec le docteur Barraud, mais on y reviendra vraisemblablement. Rodéo urbain, le ministre de l'Intérieur, annonce un plan d'action plus global, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Il annonce une nouvelle étape dans la lutte contre ces nuisances inacceptables et inadmissibles. Ce sont les mots de Christophe Castaner. Pour en parler avec nous, Yvan Assioma, bonjour. Vous êtes secrétaire national Île-de-France d'Alliance Police Nationale. Bonjour.
Oui, bonjour. Exactement.
C'est ça. Et Cédric, vous êtes gardien de la paix dans les Hauts-de-France. Peut-être commencer avec vous, Cédric, qui avait été confronté à ces rodéos. Dites-nous comment un policier se comporte face à ces rodéos. Est-ce que vous croyez à ce que dit Christophe Castaner?
Donc, déjà, bonjour à tous. Bonjour. Oui, pour commencer, sur ce que dit Christophe Castaner, alors élargir des plans d'action, c'est déjà bien sympa. Mais le problème, c'est qu'on a déjà des textes de loi qui nous permettent d'agir. La seule chose qui nous manque, c'est l'autorisation en fait d'agir. Les textes de loi, on a eu un plan de rodéo urbain en 2018, il me semble, qui nous autorisait normalement à pouvoir saisir les motos, etc. Mais déjà, faut-il pouvoir les prendre en charge et pouvoir les interpeller, ce qui n'est pas le cas pour l'instant depuis pas mal de temps.
Donc ça veut dire que les ordres ne sont pas là?
Les ordres, en fait, sont compréhensibles dans un sens où la prise de risque pour interpeller ces auteurs de rodéo, ces individus sont très compliqués. Hein. C'est une situation qui est toujours compliquée dans le sens où la prise de risque sera effectivement là. Il y a des risques pour l'individu, pour nous, pour les gens autour. Mais à un moment donné, en fait, c'est même plus devenu un délit à leur sens, c'est devenu un jeu. En fait, ces individus s'amusent de 14h jusqu'à des 23h du soir à nuire la tranquillité des gens, à nuire aussi aux droits à tout le monde et attendent juste notre intervention pour pouvoir s'amuser et diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux comme ils savent bien le faire.
Ouais. Votre point de vue à vous, syndicat de police, Yvan Assioma?
Bah écoutez, oui, faire des annonces d'un plan global d'action, charger deux députés d'une nouvelle mission, oui, ça sont des annonces politiques.
Mais sur le terrain, concrètement.
D'abord, moi, je voudrais revenir sur cette. Concrètement, nous, ce qu'on dit, c'est que déjà la loi existe, comme notre collègue vient de le dire. Donc, appliquons déjà la loi. Je vais rappeler un petit peu, c'est une loi qui date d'août 2018. Depuis août 2018, le rodéo motorisé est devenu un délit. Les peines, elles vont de 1 an à 15 000 euros d'amende pour celui qui fait du rodéo tout seul. Elles sont doublées quand c'est des rodéos qui sont commis en réunion. Et ces peines peuvent être portées jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende quand il y a des circonstances aggravantes du style conduite sous stupe, conduite sous alcool ou en défaut de permis de conduire. Donc déjà, appliquons les lois. La loi elle existe. elle est dure, appliquons-la.
Tout est là. Dans les peines. Mais alors pourquoi on ne l'applique pas ?
C'est-à-dire, ça, il faudrait poser la question à la justice. Nous, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qu'on dit. Dès qu'on arrive à interpeller des gens, les peines, elles sont pas portées au maximum. Donc déjà, portons les peines au maximum de ce que prévoit la loi. Là, ça aura peut-être un effet dissuasif. Là, il n'y a aucun effet dissuasif.
Est-ce que vous avez les moyens physiques même de le faire ? On a pu voir hier, c'est la même chose pour les matchs de foot qui sont en train de, enfin, qui vont vraisemblablement se multiplier. Les policiers disent, on ne peut pas intervenir quand il y a 400 personnes qui se réunissent. Et vous n'avez pas les ordres pour disperser aujourd'hui ces gens-là.
Écoutez, 400 personnes qui se réunissent, on sait maîtriser, ça serait quand même triste si on ne savait pas maîtriser une foule. Ça voudrait dire qu'on ne maîtrise aucune manifestation. Or, on le fait, et puis on l'a vu pendant des mois dans la capitale. Donc ça maîtrise une foule, on sait le faire. Effectivement, il faut envoyer du monde, il faut envoyer les moyens, il faut les instructions. Donc les instructions ne sont évidemment pas forcément toujours données quand je parle d'une foule. On parle sur le sujet que vous venez d'évoquer. Moi, je reviens sur les rodéos. Les rodéos moto, on l'a vu, l'actualité récente nous l'a montré, notamment quand il y a eu un grand rassemblement, enfin, si on peut dire ça, un rassemblement d'une trentaine, quarantaine de cyclomotoristes sur le périphérique, nos collègues y ont été. D'ailleurs, on a eu un collègue qui a été blessé. Donc voilà, donc on a les moyens d'intercepter aussi, mais ça fait partie aussi du rôle du policier. C'est quoi le rôle du policier ? C'est de, quand il constate une infraction, de tout mettre en œuvre pour faire cesser l'infraction. C'est ça le rôle du policier. C'est ce que prévoit la
loi. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas soutenu, disons-le très clairement, vous n'êtes pas soutenu par votre hiérarchie. Peut-être Cédric, un mot là-dessus. Vous vous sentez soutenu par...
En fait, si je peux me permettre, il y a une vraie frilosité de nos responsables hiérarchiques. Il y a une vraie frilosité, je parle de la haute autorité, il y a une vraie frilosité des réseaux sociaux, comme l'a dit Cédric. Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu tétanisé avec les retombées qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux.
C'est-à-dire qu'en gros, la police a perdu la bataille de la com. C'est aussi comme ça qu'on peut dire.
Il faut arrêter d'avoir peur avec ça. Et puis il y a une certaine... En fait, on constate sur les rodéos, mais comme sur d'autres faits, il y a une vraie aversion des valeurs. En fait, ceux qui se permettent de faire ces rodéos moto, ils sont presque portés en héros par leurs petits copains là, des cités avoisinantes. Et il y a quand même un peu de complaisance de la part des uns et des autres. Je suis désolé, quand il y a eu le week-end dernier à Strasbourg, deux fillettes de blessés par un mec qui faisait du rodéo moto, on n'a entendu personne. On n'a entendu aucun politique s'en émouvoir. Il est facile pour certains politiques, on le voit, des tweets assassins, de traiter les flics de racistes ou de fachos. Mais là, quand il s'agit de deux fillettes qui sont victimes d'un mec qui fait du rodéo moto à Strasbourg, on n'entend plus personne. Voilà. Donc en fait, c'est aussi un peu le policier, c'est aussi un peu la cible facile. Désigner, dire toujours c'est la faute de la police, quand il y a une vraie inversion des valeurs, et c'est scandaleux. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est presque en train de s'excuser quand il y a un gars qui se plante tout seul à moto pour dire « Hey, on n'était pas sur place !» Mais quand bien était sur place, le rôle de la police est de faire cesser le délit. Moi, je vous le rappelle, depuis août 2018, le rodéo motorisé, c'est un délit. Donc ça veut dire que si on baisse les bras là, on baisse les bras partout.
On les a baissés, puisque vous dites que la loi date de 2018. Cédric, un mot peut-être pour conclure, comment vous le vivez, vous, quand vous êtes envoyé sur le terrain, justement, et que vous êtes confronté à des rodéos ?
Alors, il y a deux options. Soit on est envoyé, effectivement, parce que les gens ont ras-le-bol, et ce qui est de plus en plus le cas, ou alors, des fois, on va constater de nous-mêmes un rodéo motorisé. À partir du moment où ça remonte à notre station directrice, les consignes sont simples. On nous demande de faire une physionomie. Qu'est-ce qu'une physionomie ? C'est d'être envoyé afin de préparer une intervention à l'issue. Sauf que maintenant, la physionomie est envoyée pour dire « bah oui, on a constaté effectivement des motos, des rodéos, et on nous demande de ne pas intervenir, de ne pas prendre en charge ces motos au vu du risque qu'ils vont prendre. » Aujourd'hui, c'est une mission qui nous fait, entre guillemets, plus du tout rire, parce qu'on est humilié, en fait. C'est une mission qui est humiliante, parce qu'on y passe, on va passer sur les réseaux sociaux, on finit sur les Snapchat, on finit sur les Facebook de tous ces rodéomans, et on voit, le grand public voit qu'on ne peut rien faire, en fait.
Merci à tous les deux. Pardon, c'était un petit peu court, mais je pense qu'on a bien compris, en tout cas, votre sentiment à tous les deux et cette réalité que vous vivez, évidemment, au quotidien. On se retrouve dans un instant, nous, pour commenter l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio.